Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonjour. Après 9 heures de discussions liées à un blocage de l'Italie, les 28 pays de l'Union européenne viennent tout juste de parvenir à un accord sur la problématique migratoire au Conseil européen. Emmanuel Macron a réagi depuis Bruxelles. Nous entendrons le président de la République. Une décision historique pour une multinationale. Le groupe Lafarge, en tant que personne morale, a été mis en examen hier pour complicité de crimes contre l'humanité. Le cimentier est soupçonné d'avoir financé l'État islamique en Syrie. Explication à suivre de Marie Dosé, l'avocate des deux ONG qui ont porté plainte. La direction de la SNCF a fait le bilan des 3 mois de grève perlée, compte rendu de Michaël Thébault. En politique, fin de l'indulgence pour le gouvernement, pour toute une partie de la droite modérée. Nous verrons pourquoi avec Laurence Perron. Et puis, quelle solution pour les auteurs? Ils revendiquent un rééquilibrage de la filière et de meilleurs droits d'auteur. L'analyse d'Anna Jarota à la fin de ce journal. Elle est l'une des rares agents littéraires à travailler en France. Les dirigeants européens se sont donc mis d'accord sur les conclusions du Conseil européen à Bruxelles, accord trouvé dans la douleur, l'Italie ayant bloqué tout le processus d'adoption des conclusions hier soir, conclusions concernant la migration. Les 28 souhaitent des centres d'accueil contrôlés à l'intérieur de l'Union européenne afin d'étudier les demandes d'asile. L'accueil et la répartition des réfugiés se fera toujours sur la base du volontariat. Et puis, une deuxième tranche de 3 milliards d'euros sera débloquée pour la Turquie afin qu'elle aide les réfugiés syriens. Emmanuel Macron vient tout juste de réagir. Il est avec Élise Delève.
Juste un mot pour dire qu'après 9 heures de discussion et de travail, un accord a été trouvé et c'est pour la France une bonne nouvelle. Ce travail nous a permis d'abord d'avoir une approche cohérente des phénomènes migratoires. Le travail avec les pays tiers et en particulier l'Afrique, mais aussi le Proche et Moyen-Orient. Ensuite, une volonté de mieux protéger nos frontières. Renforcer également nos règles d'accueil et la proposition d'avoir justement des centres contrôlés sur le territoire européen pour mieux organiser cet accueil. La solidarité que nous devons aux pays de première entrée a été actée lors de ce sommet. L'étape de ce soir était importante. Beaucoup prédisaient l'impossibilité d'un accord. Beaucoup prédisaient le triomphe de solutions nationales. Ce soir, nous avons réussi à obtenir une solution européenne et un travail en coopération.
Emmanuel Macron, le chef de l'État, était avec Élise Delève. Aux États-Unis, 5 personnes tuées et plusieurs autres blessées à Annapolis, dans l'État du Maryland. Un homme armé a ouvert le feu dans les locaux d'un journal local. Il ne s'agit pas d'un acte terroriste. Le suspect approche la 40aine d'années, selon la police. Il entretenait un vieux contentieux avec le quotidien qui s'appelle Capital Gazette. C'est du jamais vu pour une multinationale. Le groupe Lafarge a été mis en examen en tant que personne morale hier pour complicité de crimes contre l'humanité. Le cimentier français est soupçonné d'avoir contribué à financer des groupes djihadistes en Syrie. Il s'agissait de maintenir l'activité de son usine de Jalabiya, située dans le nord du pays. Dans cette affaire, 8 cadres et dirigeants ont déjà été mis en examen pour financement d'une entreprise terroriste et mise en danger de la vie d'autrui. Marie Dosé est l'avocate des deux ONG à l'origine de la plainte qui a donné lieu donc à cette nouvelle incrimination de complicité de crimes contre l'humanité. Elle est interviewée par Florence Sturm.
C'est un moment judiciaire historique, c'est une première mondiale. Jamais une multinationale comme personne morale a été mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité. Jamais. Les magistrats instructeurs se basent sur les témoignages des salariés, sur ce que l'on sait assurément de ce qu'était la Syrie au moment où l'entreprise fonctionne, et surtout sur la connaissance qu'avaient les dirigeants de la situation et des personnes ou des groupuscules avec lesquels ils pactisaient pour faire fonctionner les machines à ciment. Au vu de la gravité des faits, au vu de ce qui est établi d'ores et déjà par l'information judiciaire, au vu de cette récente mise en examen, nous appelons Lafarge à ouvrir un fonds d'indemnisation pour indemniser dès maintenant les salariés syriens qui ont été exploités, malmenés et sacrifiés à l'aune de leurs intérêts économiques, parce que la procédure judiciaire suit son cours mais qu'elle sera nécessairement longue, et parce que en l'état, ils doivent être indemnisés et que Lafarge a les moyens de les indemniser. Donc en toute transparence, nous demandons à Lafarge d'ouvrir ce fonds d'indemnisation pour indemniser les salariés qui ont été exploités et sacrifiés par cette entreprise.
L'avocate Marie Dauzet, qui défend les deux ONG qui ont porté plainte contre Lafarge ainsi que les anciens salariés du groupe en Syrie, également partie civile. Le dernier survivant des attaques terroristes du 13 novembre, Salah Abdeslam, a été entendu pour la 7e fois hier par la justice antiterroriste. Le djihadiste est très brièvement sorti de son mutisme, une déclaration spontanée à connotation religieuse et politique. Il a interpellé notamment Emmanuel Macron pour critiquer, je le cite, sa soif de puissance et de renommée qui, selon lui, appelle à faire couler le sang des musulmans. Pas un mot d'excuse, en revanche, pour les 130 morts et plus de 400 blessés des attaques de 2015. 36e et dernier jour de grève hier, en attendant les 6 et 7 juillet et peut-être d'autres opérations ponctuelles au cours de l'été. La direction de la SNCF a fait le bilan de ces 3 mois de grève perlée. Et quel bilan dresse-t-elle? Élément de réponse avec vous, Mickaël Thébault.
Eh bien, c'est un bilan en forme de satisfecit. La direction regrette évidemment tous les désagréments causés aux voyageurs, mais elle se félicite des mesures prises, et d'abord sur la qualité de l'information trafic. Mathias Vichra, directeur général adjoint de la SNCF.
Faire en sorte que, au moins 24 heures avant, l'ensemble du plan de transport pour les jours de grève puisse être donné, précis et puisse être fiable. On a multiplié les mails et les textos. Il y en a plus de 2 millions qui ont été envoyés pendant les 3 mois de grève, et ça, c'est une première.
Une première, c'est vrai, mais qui n'a satisfait que 46% des usagers, selon une étude commandée par la direction elle-même. Direction qui se félicite aussi du nombre de trains garantis les jours de grève. C'était même de mieux en mieux.
Il y avait 13% de TGV qui roulaient le 3 avril. Il y en a, pour la dernière séquence de grève, plus de 80%.
Et satisfait encore avec ces dispositifs particuliers tels que le plan SNCF Exam qui a permis
de garantir des trains, de mobiliser des taxis, d'avoir des mots d'excuses auprès des centres d'examen.
Mais seulement 200 candidats au bac dans toute la France ont ainsi été pris en charge par des taxis affrétés par la SNCF. Enfin, pour la direction, la dernière raison de se féliciter, c'est...
C'est tout ce qu'on a fait en matière de remboursement. Il y a un site dédié, mondedommagementtransilien.com. Ça a été fait aussi pour TER, pour des abonnements comme TGV Max, qui a 100 000 abonnés qui se sont vus rembourser intégralement leur abonnement pour le mois d'avril.
Et juin, mesure de compensation qui, ajoutée aux 3 millions de billets à prix réduit, auront coûté plus de 300 millions d'euros à la SNCF.
Explication Mickaël Thébault. Depuis plusieurs semaines, le Premier ministre Édouard Philippe multiplie les visites en terre possiblement Macron compatible. Après Toulouse, chez Jean-Luc Moudin, hier, c'était Chalon-sur-Marne en Champagne, chez son ami LR Benoît Apparu. Puis le Premier ministre est arrivé à Lille pour signer des pactes financiers avec les territoires des Hauts-de-France. Édouard Philippe y a été accueilli froidement par Xavier Bertrand à la tête de la région, ce qui traduit la fin de l'idylle entre cette droite dite humaniste et sociale, critique de Laurent Wauquiez et le président de la République, Laurence Perron.
Bienvenue à Jurassic Park. Voilà comment Xavier Bertrand, le président LR de la région Hauts-de-France, a accueilli le Premier ministre hier à Lille.
Je dis bienvenue à Jurassic Park parce que je crois que pour le président de la République, on est des dinosaures, l'ancien monde.
Au micro de Cécile Bidot de France Bleu Nord, il enfonce le clou.
Très bien que le président de la République fasse un peu confiance aux gens. Et ça, à l'Élysée, ça semble compliqué de faire confiance. La théorie des premiers de cordée, la théorie du ruissellement, tout ça c'est de la flûte.
Comme avant lui, à Valenciennes, Jean-Louis Borloo avait pris sa revanche de mal blanc en étriant le président de la République qui a enterré son rapport sur les banlieues.
Il faut faire attention à ce que notre pays ne se retrouve pas dans la situation désagréable où le gratin se sépare des nouilles.
La vengeance est certes un plat qui se mange froid, mais après les critiques de Dominique de Villepin sur France Inter cette semaine...
J'accueille l'Aquarius et je prends la parole devant les Français pour leur expliquer pourquoi les Français, il faut leur parler. Et pas leur parler à travers des petites phrases, pas leur parler à travers la télévision de l'Élysée qui devrait être supprimée.
Et puis si l'on ajoute aussi le procès en indignité présidentielle de Philippe de Villiers, après la photo de la fête de la musique, il semblerait que les relations avec la droite, envisagées Macron compatibles, se tendent. Un Emmanuel Macron trop libéral, tant sur le plan économique que moral, voilà la brèche dans laquelle pourrait s'engouffrer cette droite en vue de 2022.
Les précisions de Laurence Perron. Le livre français très dynamique à l'international. Près de 13 500 titres ont été cédés à des éditeurs étrangers l'an passé. Le syndicat national de l'édition a rendu public ces chiffres hier. Une bonne nouvelle, alors que l'année 2017 a été un petit peu plus difficile en France, avec des ventes en recul de plus de 1%. 430 millions d'exemplaires écoulés contre 434 millions en 2016. Un secteur aussi traversé par un mouvement social chez les auteurs. Depuis l'automne dernier, il demande au gouvernement d'intervenir intervenir pour rééquilibrer les revenus au sein de la chaîne du livre, notamment au sujet des droits d'auteur. Mobilisation qui rappelle celle de l'Allemagne il y a 15 ans. Anna Jarota est une des rares agents littéraires à travailler en France. Pour elle, ce qui s'est passé là-bas est en train d'arriver en France.
En fait, il n'y avait pas une mobilisation syndicale telle qu'elle est en France. À un moment, les écrivains se sont dit, mais finalement, on est mieux servi par quelqu'un qui va mieux défendre nos droits parce que entre nous et notre éditeur, il y a un conflit d'intérêts. Et de bouche à l'oreille, il y avait les écrivains, les auteurs qui étaient contents parce que ils se sont retrouvés chez l'agent littéraire et puis ils se sont dit, mais finalement, je suis beaucoup mieux défendu. Maintenant, je peux me concentrer sur mon écriture et je n'ai pas besoin de m'occuper de mes comptes, de mes contrats, de toute cette paperasse que je ne comprends pas et qui me prend la tête. J'ai plus d'argent. Donc, les agents ont poussé comme des champignons, en quelque sorte. Et aujourd'hui, tous les auteurs sont représentés par des agents. Et c'est normal.
Pourquoi est-ce que ça n'a pas eu lieu en France? Est-ce que ce sont les auteurs qui bloquent, les éditeurs qui bloquent?
Je pense que tout d'abord, c'est les éditeurs qui bloquent parce que c'est dans leur intérêt de bloquer. Parce que, bien évidemment, moins l'auteur est payé, plus l'éditeur gagne. C'est normal. Édition, c'est business. On dit toujours, surtout en France, que c'est de la poésie. Non. C'est du business.
Des propos recueillis par Cécile de Carvaz-Doué. La météo de ce vendredi 29 juin. Les nuages bas vont progressivement se dissiper pour laisser place à une journée encore très ensoleillée. Les températures en ce moment de 23 à 27 du nord au sud. La maximale à Agen cet après-midi avec 31 degrés.